3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro. Nous sommes en 1968. Un jeune réalisateur américain de 28 ans, alors habitué aux courts-métrages et aux spots publicitaires, se lance avec ses amis dans la grande aventure du long-métrage. Parti d'un budget plus que restreint, provenant majoritairement de leur poche, le groupe nous gratifiera alors d'un film incontournable, fondateur d'un sous-genre, soit le film de mort-vivant, qui établira la majorité des codes de ce genre de film. Ce long-métrage marquera également un tournant significatif de l'horreur et s'impose légitimement comme une œuvre majeure qui en influencera beaucoup d'autres et qui sera également responsable de cette popularité des morts-vivants dans la culture populaire de ce début du 21e siècle, touchant autant le monde du comic book, des jeux vidéo, de la musique, du cinéma et de la télévision. Night of the Living Dead est souvent considéré comme le tout premier film de zombies. En vérité, le metteur en scène George Romero n'a rien inventé. En effet, dès 1932, Victor Halperin réalisait déjà The White Zombie avec Bela Lugosi. Cependant, le long-métrage noir et blanc quasi-documentaire, mettant en vedette des acteurs inconnus de l'époque, jettera un regard politique sévère sur la société américaine, principalement à cause de la guerre du Vietnam qui battait alors son plein, et les problèmes raciaux qui, eux, étaient d'actualité, ce qui fera de ce film un événement innovateur pour son époque. Bien que le mot « zombie » ne soit jamais utilisé dans le long-métrage, Night of the Living Dead nous présente ici une prémisse de base impliquant un groupe de personnes dans les régions rurales de la Pennsylvanie combattant une horde de cadavres morts-vivants mangeurs de chair. 10 ans plus tard, Romero reviendra avec une suite de son chef-d'œuvre de 1968 avec Dawn of the Dead, qui finira alors de placer les règles du monde des morts-vivants tel qu'on les connaît aujourd'hui. Sans l'influence de ces deux productions, la trajectoire du genre d'horreur aurait fort probablement été très différente. Alors qu'il complétera sa trilogie en 1985 avec Day of the Dead, Romero décidera de revenir sur les origines de sa trilogie et demandera alors au maître des effets spéciaux Tom Savini, qui avait lui-même réalisé les maquillages de Dawn et Day of the Dead, de réaliser le film et d'y apporter une touche beaucoup plus moderne. Voici donc le sujet de ce programme double dans lequel je vous parlerai du classique de 1968 ainsi que de sa nouvelle mouture réalisée en 1990, j'ai nommé ici Night of the Living Dead. Donc, courez vous réfugier dans la maison la plus proche et ouvrez votre vieille télévision à antenne afin d'assouvir votre faim de films de morts vivants en allant avec moi explorer ce monde horrifiant qui mit la table à l'univers aujourd'hui si populaire des zombies.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted.
Can I help you?
Excuse me, hi. I wanted to find out about the unlimited for life guarantee.
Sure, Sprint is guaranteeing unlimited talk, text, and data for life.
Cool. And what if, say, technically you were not alive? Like, maybe you were undead?
Like a zombie.
Whoa, let's not go putting labels on people. I'm a zombie.
Unlimited from Sprint. It's guaranteed for life. Now for only $80 a month.
What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies, too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients, soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection.
Becoming attraction.
And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
Welcome to a night of total terror. Night of the living dead, the dead who live on living flesh, the dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Night of the living dead. A bizarre adventure in fear. An experience in shock, more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night with the dead who cannot die. A night of total terror. Night of the Living Dead.
Night of the Living Dead, ou La Nuit des Morts Vivants, est un drame d'horreur distribué par les studios Continental Distributing le 1er octobre 1968. Ce film américain d'une durée de 96 minutes coûtera seulement 114 000 $ à produire, mais ramassera plus de 30 millions de $ à travers le monde entier au niveau du box-office. Au poste de réalisateur, on y retrouve George A. Romero, ce réalisateur américain qui nous a donné des films tels Dawn of the Dead, Day of the Dead, Night Riders et Monkey Shines. Au niveau de la production, on y retrouve Russell Striner, lui qui nous avait donné They're Always Vanilla et The Booby Hatch, ainsi que Cal Hardman, ce producteur américain qui a produit Night of the Living Dead, The 30th Anniversary Edition. Au poste de scénariste, on y retrouve bien sûr George Romero, qui a écrit également les films The Crazies, Martin et Two Evil Eyes, ainsi que John A. Russo, ce scénariste américain qui a écrit les scénarios de Backwoods Massacre et Voodoo Down. Dans la distribution, on y retrouve Dwayne Jones, Judith Odier, Cal Hardman, Marilyn Eastman, Keith Wayne, Judith Ridley, Kira Sean,
Bill Hinsman, George Cossana et, finalement, Russell Striner dans le rôle de John. Alors qu'ils rendent visite à la tombe de leur père au cimetière, une jeune femme et son frère sont attaqués par un homme d'allure étrange. Ayant réussi à fuir, la jeune femme se réfugie dans une maison isolée où elle est rejointe par un jeune Afro-Américain qui fuit, lui aussi, l'attaque d'autres créatures semblables. La radio leur apprend que des causes étranges font revivre des cadavres qui s'en prennent alors aux êtres vivants pour les dévorer. D'autres rescapés se joignent aux jeunes gens et le groupe cherchera alors à survivre à l'assaut nocturne de ces morts vivants. En 1961, après ses études à l'université, George Romero fonde avec une dizaine d'amis une société de production appelée The Latent Image, qui sera spécialisée dans la création de publicités pour la télévision. Cependant, l'objectif du petit groupe qui travaille à Pittsburgh est de réunir assez d'argent, d'expérience et de matériel pour se lancer dans la production d'un long métrage, ce qui sera alors possible quelques années plus tard. S'inspirant de deux œuvres majeures, soit le film Carnival of Souls, réalisé par Herc Harvey en 1962, et la nouvelle de Richard Masterson, I Am Legend, qui, elle, fut écrite en 1954, Romero avait écrit une histoire mettant en vedette une masse informe, revenue d'entre les morts et poussée par un besoin irrépressible de se nourrir de la chair et du sang des vivants. Tout d'abord écrit sous le thème de la comédie d'horreur ayant pour titre « Monster Flick », John Russo et George A. Romero retravailleront le scénario qui changera de titre à plusieurs reprises, passant de « Night of the Anubis » à « Night of the Flesh Eaters ». Finalement, les deux hommes décidèrent de se concentrer sur les morts vivants qui seront alors appelés « ghouls » dans le film. Russo prendra 3 jours pour terminer la version finale du scénario, alors que Romero travaillera sur la pré-production du long-métrage et la préparation du tournage. Le choix d'un film d'horreur sera une stratégie commerciale dont l'objectif original sera de distribuer leurs films dans les cinéparcs de la région, leur permettant ainsi de rembourser rapidement le budget initial investi. Une fois le choix du genre effectué, et même si aucune des personnes en présence n'est un amateur de films d'horreur, le petit groupe s'engage totalement pour aboutir à la production d'un film de qualité. C'est la raison pour laquelle, lorsque la recherche de financement s'avère extrêmement difficile, car le projet n'intéresse aucun investisseur, le petit groupe de 10 personnes décidera alors d'investir ses propres finances, chacun fournissant alors un montant total de plus de 600 $ et s'engagera à parrainer une autre personne pour qu'elle apporte le même montant sur la production. La vente à profit des actions augmentera alors le capital qui s'élèvera alors à plus de 114 000 $. Avec le budget fraîchement amassé, Romero fera alors des choix artistiques qui seront dictés par les contraintes budgétaires. Mettre en scène des morts vivants nécessite peu de maquillage et d'effets spéciaux et le choix du noir et blanc permettra de sauver sur l'éclairage et le peaufinement du visuel. Romero et Russo choisiront par la suite des emplacements éloignés pour développer leur histoire. La plupart des scènes ont été tournées à l'extérieur de Pittsburgh, dans le comté de Boulder, en particulier autour d'Evans City. C'est d'ailleurs le cimetière et la chapelle d'Evans City qui seront utilisés pour le long métrage. Pour la maison où les personnes se défendent des morts vivants, cette dernière a été configurée pour la démolition, laissant donc à l'équipe toute la latitude nécessaire pour la modifier au besoin. Romero et Russo n'ont pas écrit le scénario avec un acteur afro-américain en tête pour le rôle principal. Lorsque Dwayne Jones a été choisi comme Ben, il a été choisi parce qu'il avait donné la meilleure performance lors de son audition. Il s'agira ici du premier long-métrage pour Jones et ce sera également la première fois qu'un acteur de race noire aura le rôle principal d'un film d'horreur. Dans le scénario, Ben, le personnage de Dwayne Jones, est décrit comme un chauffeur de camion de la classe ouvrière. Jones n'était vraiment pas satisfait de cela, travaillant finalement avec Romero et Russo pour rendre son personnage beaucoup plus éduqué et sûr de lui. Jones, qui était lui-même un ancien professeur d'université, mit à jour les différents dialogues de Ben pour le transformer en un personnage différent de ce qu'il était à l'origine. Malheureusement, l'acteur Dwayne Jones décédera des suites d'un arrêt cardiaque le 22 juillet 1988, au jeune âge de 51 ans. Judith O'Day était âgée, elle, de 23 ans lors de son audition. La jeune femme espérait que ce rôle lui ouvrirait les portes d'Hollywood. Malheureusement pour elle, elle ne réapparaîtra sur le grand écran que 10 ans plus tard dans le film The Pirate, avant de disparaître jusqu'au début des années 2000 pour fonder une famille et revenir sur le grand écran comme actrice de 2003 à 2017. Pour le reste de la distribution, eh bien, du côté de Carl Hardman, celui-ci était l'un des producteurs du film, alors que l'actrice Marilyn Eastman supervisera les effets spéciaux du film lorsque le concepteur des effets spéciaux Tom Savini, qui avait originellement été engagé par Romeo pour réaliser les effets spéciaux ici, fut enrôlé dans l'armée peu de temps avant le début du tournage. Eastman utilisera un fond de teint blanc et foncera les contours des yeux pour la partie du maquillage des morts vivants et utilisera de la cire pour montrer les blessures et la chair en décomposition. En plus du poste de maquillage et des effets spéciaux, Eastman s'occupera également des costumes, ces derniers provenant de friperies ou de la collection personnelle des acteurs. Le tournage se fera à Pittsburgh entre juillet 1967 et janvier 1968. La presque totalité des comédiens ainsi que des membres de l'équipe technique étaient alors composés d'amis, de parentés et de résidents et commerçants de la place. La majorité des dialogues furent, eux, retravaillés et improvisés lors du tournage, ce qui explique notamment la scène où Barbara raconte à Ben ce qui lui est arrivé et le fait que ce qu'elle dit ne correspond vraiment pas avec ce que nous venons de voir. Night of the Living Dead est l'un des premiers films à utiliser un gore excessif. Dans les détails graphiques, le film montre des zombies consommant des personnes. Afin d'obtenir ces effets sur un budget serré, l'équipe de production obtiendra des morceaux de jambon et des entrailles qui seront donnés par une boucherie locale dont le propriétaire était un des figurants apparaissant dans le long métrage. Pour le sang, l'équipe utilisera du sirop de chocolat de marque Bosco. Une fois le tournage terminé, les membres de la compagnie s'attaqueront à la post-production et au montage. Une fois le montage terminé, Romero aura de la difficulté à trouver un distributeur qui serait prêt à distribuer le film avec le montage actuel, trouvant ce dernier beaucoup trop violent pour les salles commerciales. Columbia Pictures et American International Pictures demandèrent que la séquence finale soit retournée et que la violence soit rabaissée au niveau du montage, ce que refusera de faire Romero. De plus, alors que le réalisateur se rendait à Hollywood pour vendre son film, surviendra un événement tragique, soit l'assassinat de Martin Luther King, ce qui compliquera encore plus les choses avec cette conclusion de film dans laquelle son héros afro-américain est tiré à bout portant et transporté comme un vulgaire morceau de viande pour être brûlé, ce dernier ayant été accidentellement pris pour un mort-vivant. Ce sera finalement la Walter Reed Organization qui acceptera de distribuer le film dans son intégralité, mais à condition que le titre Night of the Flesh Eaters soit changé pour Night of the Living Dead parce qu'un autre film possédait déjà un titre similaire et qu'on risquait d'avoir des problèmes au niveau des droits d'auteur. Cependant, lors de l'insertion du nouveau titre, le distributeur oublia d'insérer la mention du copyright présente sur l'ancien titre. En conséquence de quoi, le film tombera définitivement dans le domaine public sur le territoire nord-américain. Mais ce ne fut pas vraiment à cause de cette erreur que le film ne profita pas financièrement à ses créateurs. En réalité, la maison de distribution se garde bien de redistribuer les bénéfices à l'équipe de production et cette entreprise fit banqueroute à la fin des années 70, ce qui mit fin aux poursuites judiciaires que ne manqua pas de lui intenter Romero et ses partenaires. Cependant, le fait que le film se retrouve dans le domaine public permettra à un nombre incalculable de compagnies de produire des dizaines de versions VHS et DVD du film qui purent être vendues sans même demander l'autorisation du réalisateur et des producteurs ou même sans que ces gens puissent avoir une seule scène des revenus. Le film sortira en salle le 1er octobre 1968 et fera plus de 250 fois son budget initial en recettes. Distribué juste avant l'adoption de la classification des films par la Motion Picture Association of America Rating System, Night of the Living Dead sera mal reçu par la critique qui critiquèrent sa violence explicite pour l'époque. parce que la MPAA n'existait pas encore, le film était présenté en après-midi et était alors accessible à un très jeune auditoire, ce qui traumatisera alors les parents qui ne s'attendaient vraiment pas à ce que leurs jeunes enfants voient un tel spectacle. Ces derniers se mettant soit à pleurer ou encore étaient en état de choc durant la projection. Du côté européen, Night of the Living Dead sera le film qui amassera le plus d'argent en salle en 1969. En 1999, Night of the Living Dead sera inscrit à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour fin de préservation en raison de son importance culturelle, historique et esthétique. En 2001, le film sera classé au 80e rang des 100 meilleurs films à suspense de l'American Film Institute. Puis en 2008, le magazine Empire classera Night of the Living Dead au 397e rang des 500 plus grands films de tous les temps, alors que le New York Times le placera dans sa liste des 1000 meilleurs films de toute l'histoire du cinéma. Le film sera mis en couleur de façon digitale à trois reprises, soit en 1986 par la compagnie Hal Roach Studios, en 1997 par la compagnie Encore Bay Entertainment et finalement en 2004 par la compagnie Legend Films. En 1999, le co-scénariste John A. Russo produira une version modifiée du film de 1968 qui s'intitulera Night of the Living Dead 30th Anniversary Edition. Russo tournera des séquences additionnelles afin de mettre le film au goût du jour et reprendra l'acteur Bill Hinsman pour reprendre son rôle de mort-vivant qui attaquait Barbara et Johnny dans le cimetière au début du film original. Une nouvelle trame musicale sera également réalisée pour cette version du film par le compositeur Scott Vladimir Lissina. Du côté des points forts, Night of the Living Dead est un film indépendant à petit budget et c'est ce qu'il va falloir que vous gardiez en tête lorsque vous allez regarder ce dernier. Pour son époque, le concept est véritablement avant-gardiste avec sa violence, sa nudité et un héros afro-américain qui se permet beaucoup de liberté pour cette époque, telle que frapper une femme de race blanche et s'opposer à la doctrine d'un homme de race blanche dont les intentions sont malsaines. Bien que la réalisation soit quelque peu passable due au manque d'expérience de Romero, le drame d'horreur ne tarde pas à nous faire rentrer dans l'action et à maintenir l'attention du spectateur malgré le manque d'inspiration du scénario et de l'aspect simpliste de la technique. Finalement, malgré quelques effets d'horreur d'une grossièreté primaire, le film n'a véritablement pas peur de sa morbidité. Du côté des points faibles, eh bien, comme j'expliquais un peu plus tôt, la réalisation de Romero est hyper dramatique, voire même théâtrale. On sent son manque d'expérience ici et ça va même faire en sorte que même la distribution ici va jouer de ce qu'on appelle d'une façon extrême, soit overacter leur séquence. La musique, elle, fait style des années 50, ce qui enlève un peu l'aspect horrifiant du film. Par chance, on a quelques petits moments musicaux qui vont ramener cette ambiance macabre, mais dans l'ensemble, c'est quelque peu décevant. L'aspect technique du film aussi laisse un petit peu à désirer, tout comme certains détails du scénario qui nous sont passés d'une façon trop facile, style la vitesse avec laquelle la nuit va tomber à l'extérieur. À un moment, vous avez le soleil à l'extérieur et l'instant d'après, lorsqu'on va à l'extérieur, s'il fait noir, on n'a pas vu la dégradation au niveau de la luminosité extérieure. Alors que la première moitié du long métrage sait nous tenir en haleine, la seconde partie sombre un petit peu dans une série de dialogues inutiles et d'actions style « mon père est plus fort que le tien » entre le personnage de Ben et celui de Cooper, ce qui devient vraiment ennuyant à la longue et surtout irritant. Du côté des maquillages, bien, il n'y a rien de vraiment extraordinaire ici, ceux-ci étant assez simplistes, mais n'en demeure pas moins que pour l'époque, il y a certaines scènes, je dirais, de violence qui peuvent satisfaire quelque peu les amateurs du genre. Au niveau de la musique, eh bien, il n'y a aucun compositeur, étant donné que la majorité des bouts musicaux que l'on entend dans Night of the Living Dead, la version 68, ont été pris dans des films tels que Teenagers from Outer Space en 1959, The Devil's Messenger en 1961 et The Hideous Sun Demon en 1959, ou encore dans la série télé de Steve McQueen, Wanted Dead or Alive, dans laquelle on a pris quelques extraits. Tous ces extraits musicaux qui ont été choisis par Romero vont être modifiés d'une façon électronique par Romero avec l'aide de son technicien de son. Cependant, on a quand même eu la chance d'avoir des vinyles ou des CD qui ont été faits pour nous présenter cette trame sonore-là. En 1982, vous avez l'étiquette Varese Saraband qui a sorti le vinyle de Night of the Living Dead. Puis, il faudra se rendre en 2013 où l'étiquette Toz Music sortira un CD de 43 minutes qui s'intitulera Night of the Living Dead Reworked. Puis, vous aurez en septembre 2016 l'étiquette Courtney Club Records qui sortira 500 exemplaires du vinyle de Night of the Living Dead, la nouvelle mouture, pour finalement voir un mois plus tard, soit en octobre 2016, l'étiquette Lakeshore Records qui allait sortir Night of the Living Dead, The Extended Soundtrack, donc une trame sonore de plus de 122 minutes. Je vous fais jouer ici le thème du début du film de Night of the Living Dead.
This is a private mountain.
But I only wanted it.
This mountain is reserved for patrons of drive-in theaters.
But it's
a supply depot for all sorts of good things, which people can get at the snack bar. Like soft drinks, hot dogs, good hot coffee, candy bars of all kinds, delicious popcorn, and refreshing ice cream treats.
But I am a patron of this drive-in.
Well, why didn't you say so? Be our guest.
The Stereo Warehouse on the Gulf Freeway presents
Night of the Living Deer.
The big deals, they keep coming and coming.
Jets and car speakers from $9.
Here's a real hot deal.
12-inch three-way home speakers, hundreds of watts, $49. Final call on Clarion car stereos, $19.
Save up to 80% on brand name stereo.
Night of the Living Deal.
At the Stereo Warehouse. Any other deal is no big deal.
Mom, I commend you for buying a new RAV4.
Thanks. Why?
It's the best car to survive a zombie attack. With the rear view camera, they can't sneak up. The blind spot monitor is crucial. Plenty of room for supplies. Great gas mileage, so no need to stop. And they finally got rid of that back tire.
What's that got to do with zombies?
Nothing. I just never really cared for it.
Toyota, let's go places.
Go, go, go! Do so, we'll never catch up!
Welcome to America First. How may we help you?
I am Mom!
Life can be hard, but getting a loan shouldn't be. From vehicle to home and business, America First Credit Union has the perfect loan for every walk of life. America First Credit Union. Even dismembered come first.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
They came to pay their respects.
They're coming to get you, Barbara.
Why do you have to be so cruel?
What?
Show some respect.
Now, they're running for their lives.
A biologist in Stockton, California have released reports focusing on the phenomenon, specifically on that trance-like state.
Every shelter is becoming a trap.
Are you sure we're gonna be all right?
Cooper, you gotta help me out!
And every road out...
Don't stop no matter what happens.
...is just another dead end.
They're coming right for us!
George Romero's Night of the Living Dead.
Night of the Living Dead, ou La Nuit des Morts Vivants, est un film qui sera distribué par Columbia Pictures le 19 octobre 1990. Ce drame d'horreur américain d'une durée de 88 minutes aura coûté 4,2 millions à produire, mais ne rapportera que 5,8 millions au box-office nord-américain. Au siège du réalisateur, on y retrouve Tom Savini, celui qui a mis en scène les films Chill Factor, House Call et quelques épisodes de la série Tales from the Dark Side. Du côté de la production, c'est John A. Russo, ce producteur américain qui nous avait donné The Majorette et Santa Claus, ainsi que Russell Striner, ce producteur américain qui nous a donné There's Always Vanilla et la version de 1968 de Night of the Living Dead. Du côté de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain George A. Romero qui avait écrit le scénario du film original de 1968, tout comme Season of the Witch et Knight Rider. Dans la distribution, on y retrouve Tony Todd, Patricia Tallman, Tom Tallis, McKee Anderson, William Butler, Kathy Finneran, Bill Mosley et Heather Mazur. Venu avec son frère, Johnny, fleurir la tombe de leur mère dans un cimetière de campagne, Barbara est attaquée par un homme d'allure bizarre qui s'avère être un mort revenu à la vie. Johnny succombera sous les coups de l'assaillant, mais Barbara s'échappera et se réfugiera alors dans une maison de ferme isolée où elle est bientôt rejointe par d'autres personnes fuyant également les morts vivants. Barricadé dans la ferme, le petit groupe résiste à l'assaut des dizaines de zombies au cours d'une nuit qui s'annonce meurtrière. Du fait de sa méconnaissance du milieu cinématographique, Romero n'a gagné que très peu d'argent par rapport aux recettes de son premier film, la majorité étant partie dans les poches des distributeurs. Plus grave, suite à un imbroglio fait d'incompétence et de maladresse, le film tombera directement dans le domaine public. Lorsque Romero apprendra que le producteur Menahem Golan, patron à cette époque de la compagnie 21st Century Film Corporation, était intéressé à faire un remake de son film, le réalisateur, ne voulant pas que quelqu'un d'autre ne touche à l'œuvre qui l'avait rendu si populaire, décidera alors de lancer son propre projet de refaire Night of the Living Dead en couleur et avec plus de moyens, rendant ainsi une cohérence visuelle et artistique à l'ensemble de ses deux autres productions dans la franchise, soit Dawn of the Dead en 1978 et Day of the Dead en 1985. C'est alors que Romero s'associera avec le producteur Menahem Golan pour la production du dit remake. Alors que Romero était concentré sur son adaptation du roman de Stephen King, The Dark Half, celui-ci décida de ne s'occuper que du scénario et de la coproduction du long-métrage, donnant ainsi la chance au concepteur d'effets spéciaux renommé Tom Savini de faire ses débuts à titre de réalisateur sur un long-métrage commercial. Savini avait tout de même déjà touché à la mise en scène à ce moment-là en réalisant trois épisodes de la série fantastique Tales from the Dark Side, qui fut également créée et produite par Romero durant quatre saisons, soit entre 1983 et 1988. Savini acceptera car il n'avait pas eu la chance de travailler sur le film original, recruté par l'armée pour se rendre au Vietnam à l'époque, et se verra donc donner carte blanche par Romero pour adapter comme il le voulait le film de 1968, Romero ayant une confiance aveugle envers l'homme de 44 ans. Du côté de la distribution, eh bien, après avoir approché les acteurs Laurence Fishburne, Ving Rhames et Eric LaSalle, Savini se tournera alors vers l'acteur Tony Todd pour jouer le rôle de Ben, tenu en 1969 par Dwayne Jones. Pour Todd, il s'agit ici du premier film notable dans le monde du film d'épouvante, lui qui deviendra deux ans plus tard une figure incontournable de l'horreur moderne avec son rôle de Candyman. À ses côtés, Patricia Tallman reprend ici le rôle de Barbara, qui sera alors retravaillée complètement pour en faire un personnage qui deviendra le moteur de l'histoire en prenant les choses pleinement en main. Bill Moseley et Tom Tallis, qui se retrouveront quelques années plus tard à l'affiche de trois films du cinéaste musicien Rob Zombie, soit House of a Thousand Corpses en 2003, The Devil's Reject en 2005 et Halloween en 2007, compléteront la distribution imposante du long-métrage. Même George Romero fera un caméo vocal. En effet, ce sera la voix du réalisateur-producteur que l'on entendra à la radio qui est écoutée par le personnage de Ben vers la fin du film. L'acteur Russell Stringer, qui interprétait le personnage de Johnny dans la version originale de 1968, reprendra ici du service et interprétera le rôle du shérif que l'on apercevra rapidement durant l'une des séquences finales du remake. Tout comme le film original, Savini décidera de tourner le film dans les alentours de Pittsburgh afin de rendre hommage au film de 1968. Malheureusement, comme Romero ne pouvait être présent sur le plateau de tournage, lui qui était occupé sur The Dark Half, cela va laisser Savini seul face aux pressions continues des autres producteurs, dont l'intrusif et phénoménal Menahem Golan, qui souhaitait lui revenir le plus possible aux sources du film original, alors que Savini, lui, désirait porter sa propre vision au film. De plus, la Columbia Pictures, distributrice du film, souhaitait, elle, limiter les effets gore et choquants pour éviter une classification du film trop réductrice. À cause de ces pressions, Savini devra apporter plusieurs changements et déclarera qu'au final, seulement 40% de la version finale du long-métrage sera conforme à sa vision personnelle de départ. Durant la production, Savini utilisera même sa propre Mercedes pour le tournage, voiture qui sera malheureusement endommagée pendant la production. De plus, dû à la popularité du projet, des gens provenaient d'aussi loin que du Kentucky pour être figurants dans le film. Du côté des effets spéciaux, comme Savini s'occupait de la réalisation, eh bien, il ne pouvait pas s'occuper de la réalisation des effets spéciaux et il va donner ce rôle à Everett Burrell et John Vulick, deux protégés de Savini qui, à ce moment-là, seront supervisés par le metteur en scène, mais qui s'occuperont pleinement de la réalisation des effets spéciaux. Lorsque le montage sera terminé, eh bien, on présentera le film à la MPAA qui forcera la coupure de plus de 4 minutes de film additionnel pour éviter une cote NC-17, ce qui voulait dire que le film ne pouvait être présenté dans les salles de cinéma commerciales. En 2012, une version Blu-ray produite à seulement 3000 exemplaires sera distribuée par la compagnie Twilight Time, remettant ses séquences coupées à l'intérieur du film. À sa sortie en salle, ce remake ne va pas trouver son public et ne renouvellera pas l'effet culte de la version de 1968. Night of the Living Dead sera projeté dans plus de 1544 salles américaines, mais n'obtiendra que la sixième place au box-office durant son premier week-end, derrière les films Mark for Death, Memphis Belle, Ghost, Quickly Down Under, ainsi que la nouvelle sortie du classique de 1940 de Walt Disney, Fantasia, amassant un décevant 2,8 millions de dollars à ses trois premiers jours. Le remake tombera par la suite au 14e rang lors de son deuxième week-end de diffusion. Savini prétendra que les coupures forcées par la MPAA furent totalement responsables de ce manque de popularité, les amateurs de films d'horreur voyant son nom et celui de Romero associés à ce film, eh bien, on s'attendait à un spectacle beaucoup plus violent que le résultat final. Un autre aspect aussi qui aurait pu être relié à cet échec sera le désintérêt du public pour le sujet des morts vivants depuis le milieu des années 80, ce qui confirmera les dires du réalisateur italien Lucio Fulci, comme quoi ce dernier fut renvoyé du tournage de Zombie 3 sorti en 1988 parce que les zombies étaient véritablement démodés. Night of the Living Dead sera nominé comme meilleur film d'horreur au Saturn Award, mais perdra aux mains du film de Jonathan Demme, Silence of the Lambs. Au final, Tom Savini considère encore Night of the Living Dead comme l'une des pires expériences de sa vie. Du côté des acteurs Tony Todd et Bill Moseley, ceux-ci reprendront leurs rôles respectifs au niveau vocal lorsqu'ils prêteront leur voix au film d'animation Night of the Living Dead, Darkest Dawn, en 2015. Du côté des points forts, eh bien, la force première de ce remake de Night of the Living Dead est la qualité des effets spéciaux et surtout des maquillages qui ne sont pas nécessairement spectaculaires, mais qui sont incroyablement crédibles. Ce sera d'ailleurs un rendu dont on ne retrouvera d'équivalent que 20 ans plus tard dans la série The Walking Dead. Un autre aspect très intéressant aussi de ce remake, c'est le personnage de Barbara, victime et catonique dans le film original, mais qui ici va sortir de son état de choc pour trouver un second souffle et devenir le véritable moteur de l'action, faisant d'elle un personnage féminin beaucoup plus fort que sa mouture originale. Je trouve d'ailleurs aussi que le rythme du film est beaucoup mieux dans le remake que dans la version originale de 1968. On sent que Savini ici a un petit peu plus de confiance face à sa façon d'agir au niveau du visuel comparativement à Romero en 1968. D'ailleurs, cette aisance va permettre à Savini de s'amuser avec le spectateur qui, lui, connaît déjà l'histoire et il va changer certains moments forts du premier long-métrage et il va réussir à créer plusieurs surprises et créer aussi un réalisme intéressant malgré l'absence de séquences sanglantes, bien sûr, cette absence causée par la censure de la MPAA. Mais il arrive bien sûr des points faibles, principalement la trame sonore musicale qui est fatigante et irritante. Savini aurait pu se concentrer et trouver un compositeur beaucoup plus intéressant que d'embaucher quelqu'un qui allait faire ici une musique à l'aide de synthétiseurs. Le film aussi est basé surtout pour donner une série d'effets chocs qui va faire sursauter le spectateur. Mais ça, c'est quelque chose, à un moment donné, qu'on va se lasser très rapidement parce que ça devient vraiment non seulement répétitif, mais ça devient également très prévisible. Au niveau de certains effets spéciaux, ceux-ci ont l'air vraiment trop caoutchouc. On a juste à penser à cette main, à un moment donné, qu'on traîne par terre ou encore au moment où les acteurs vont frapper sur des corps et qu'on va voir que ce ne sont pas des vrais corps, mais que ce sont vraiment des corps faits en caoutchouc. Ça brise un peu l'aspect réaliste du film. Et c'est dommage parce que ça amène aussi un aspect où est-ce que la réalisation de Savini est comme inégale parce que, justement, on se concentre beaucoup trop sur... On veut mettre plus d'effets spéciaux que de se concentrer directement sur son histoire. Au niveau de la distribution, cette dernière est vraiment inégale. On aurait pu bénéficier du haut calibre d'acteurs qui est présent ici. On a juste à penser à Tony Todd et Patricia Tallman. Juste ces deux acteurs-là auraient pu nous donner une qualité d'acting qui était beaucoup mieux que le film original. Sauf que ici, c'est là qu'on va voir le manque d'expérience de Savini et on sent que les acteurs semblent vraiment laissés à eux-mêmes, voire à plusieurs moments, plongés régulièrement dans l'overacting sans que Savini les ramène à l'ordre pour leur dire de peut-être baisser un petit peu leur rendement. De plus, il y a encore cet enfantillage entre le personnage de Ben et celui de Cooper, quelque chose qui était irritant dans le film original, mais il est encore plus fatigant dans ce film-là parce que c'en est vraiment ridicule. Finalement, bien, pour les amateurs d'images sanguignolantes, bien, le résultat final de cette version de Night of the Living Dead va vraiment être décevant pour vous, car le film comprend pratiquement aucune scène sanglante comme ce que Savini nous avait donné dans des films comme Maniac, Dawn of the Dead ou même Day of the Dead. D'ailleurs, il va s'agir ici d'un des films les moins violents de l'univers des morts vivants qui est relié à George Romero. Au final, tout comme le film original, certains dialogues sont véritablement stupides et inutiles. On a l'impression que l'on ajoute des dialogues simplement pour gagner des minutes de plus sur le résultat final pour atteindre la marque des 90 minutes. Au niveau musical, eh bien, c'est le compositeur Paul McCulloch, ce compositeur américain qui nous a donné les trames sonores de Santa Claus, de Majorette et Were Girl. La trame sonore peut se trouver en CD, soit sous l'étiquette Numenorean Music, qui fut sortie dans les années 90, ou encore les étiquettes BSX Records, qui allait ressortir la trame sonore en 2014. Je vous fais écouter ici le thème du début du film de Night of the Living Dead, version 1990.
Thank you.
côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm, à l'époque, avait coté le film 7. Aujourd'hui, il est coté 4. Moi, j'y vais avec une cote 5. Je vous dirais que j'irais plus. J'aurais une tendance à aller sur le 6, mais j'y vais avec un 5 parce que c'est quand même un film qui a bien vieilli avec le temps et malgré ses défauts, demeure quand même vachement intéressant à regarder. Du côté de la version des années 90, eh bien, Mediafilm a coté le film 6. Moi, je suis un petit peu indécis entre le 5 et le 6. J'y vais plus avec un 5 parce que c'est quand même une belle œuvre au niveau artistique et au niveau visuel, mais ça aurait pu être meilleur, surtout au niveau de la réalisation et au niveau de la distribution. Au niveau de la régie du cinéma, eh bien, la version 1968 est cotée 13 ans indicatif. Moi également, je la cote 14 ans pour les scènes de violence. Du côté du film de 1990, encore une fois, la régie du cinéma ici va coter le film 13 ans indicatif. Je suis d'accord. Moi également, j'y vais avec une cote de 14 ans pour les scènes, bien sûr, de violence, un peu nudité et surtout le langage vulgaire. Mais il n'y a rien de vraiment dérangeant comparativement à des films comme Dawn of the Dead ou Day of the Dead. Du côté des sorties DVD, eh bien, pour le Night of the Living Dead de 1968, eh bien, comme on disait tantôt, comme c'est un film qui est dans le domaine public, il existe une multitude de versions, que ce soit en cassette vidéo, que ce soit en DVD ou que ce soit même en Blu-ray disc. Donc, il vous est possible de vous procurer toutes ces éditions. Reste à savoir maintenant si vous êtes capable de mettre la main sur une édition qui comprend les versions françaises. Moi, je vous dirais qu'à date, en regardant à droite et à gauche, je n'ai pas eu la chance de trouver une édition qui incluait la version française à l'intérieur, la majorité étant en anglais. Je vous dirais que ce qui serait peut-être plus intéressant, j'avais trouvé une version à un moment donné qui comprenait et la version je vous dirais coloré et la version noir et blanc sur le dessus. C'était un DVD qui avait été distribué en 2009. Donc ça, si des fois vous avez la chance de mettre la main sur ce DVD-là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Sinon, bien sûr, il y a la version qu'on appelle le Millennium Edition, dans lequel également vous avez quelque chose avec des documentaires et tout ça. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Sinon, bien, vous allez tout simplement dans les éditions Blu-ray Disc. Mais comme je vous dis, il s'agirait d'aller sur Internet et vérifier tout ce que vous êtes capable d'avoir. Du côté de la version du film de 1990, existe encore plusieurs versions, que ce soit en DVD ou en Blu-ray disc. Bien sûr, du côté des versions anglophones et francophones, difficile d'avoir, j'ai encore là pas trouvé de version francophone du film. Cependant, le Blu-ray peut être intéressant. Il existe une édition où est-ce que, comme je disais un peu plus tôt, vous avez les séquences coupées qui ont été rajoutées dans le film. Sinon, eh bien, le film se laisse quand même très bien regarder. Donc, vous pouvez toujours aller sur des sites comme Amazon ou des choses comme ça pour voir tout ce qui existe au niveau de Night of the Living Dead dans le format DVD ou Blu-ray disc. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.